Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons.
Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. L'heure est grave parce que ce soir, on vous parle de nous. Pardon, on vous parle de deux cons.
Eh oui. Oh, t'es rigolo, toi.
Ouais, je sais.
Ah, tu m'avais pas dit que t'avais préparé cette intro.
Ouais, non, je te l'avais pas dit, c'était pour
ah,
la surprise.
Ah bah oui.
On vous parle de deux cons, une BD de Tronchet, sortie en 2004. Deux cons, c'est le récit des aventures de deux mecs plutôt cons qui entendent
oui,
des
plutôt.
Voix dans... un peu cons hein, quand même.
Un petit peu, oui.
Ils entendent des voix dans les raviolis, ils veulent absolument toucher les culottes des filles et toutes les fournitures scolaires pour eux sont de la même famille. Je vous parle bien entendu de pâte à crêpes et couilles à l'air.
C'est un peu comme comme chez Astérix, quoi. Il y a des bons jeux de mots bien sentis dans le nom.
Exactement. Et on va voir très vite que Tronchet, donc l'auteur de cette BD, c'est un adepte des jeux de mots. Et alors, cette BD, elle a eu un franc succès. Elle a eu un tel franc succès qu'elle a connu une adaptation dont je vous propose maintenant un petit extrait.
Le rap. Poitiers brûle, et cette fois-ci, pas de Charles Martel. On vous élimine puisque c'est trop tard, la France pète. J'espère que t'as capté le concept. La France est une gare, n'oublie pas de l'épuiser comme une salope. Et bat les couilles, faut la traiter. Mec, dans la ville, ça va péter, bat les couilles.
Est-ce que la violence n'a pas toujours été présente dans un certain type de chanson?
Jamais. Booba, jambes écartées. Booba, je l'encule sans huile. Bon, j'arrête parce que je suis suffoqué par tant de beauté.
Est-ce que tout de même, on ne doit pas être un peu vigilant avec, pardonnez-moi l'expression, le droit de dire des conneries?
Non, salope, pas les couilles, pète le fion, je t'encule sans huile. Quant à Internet, moi, quand je serai dictateur, je débrancherai tout ça.
Et moi, je pense... Parce que... Moi, je pensais que t'allais mettre le spectacle.
Ah non, vous avez reconnu l'adaptation de Deux Cons en live hein, par Elisabeth Lévy et Alain Finkielkraut qui nous font une superbe interprétation de Deux Gros Cons. Voilà, alors la BD raconte l'histoire de nos deux protagonistes, Pâte à Crêpes et Couille à l'air. Physiquement, Pâte à Crêpes, c'est un grand con, et Couille à l'air, bah, c'est un petit nigo.
Oui, alors, j'aimerais tout de suite qu'on fasse un lien avec un de nos premiers épisodes, voire notre premier épisode, sur des souris et des hommes, sur lequel on avait fait une légère aparté en expliquant que c'était une figure qu'on avait retrouvée souvent dans la culture populaire au XXe siècle,
ouais.
De cette figure du grand et du petit, et où le grand est souvent le nigo et le petit le plus malin. Je pense que c'est un truc dont s'amuse beaucoup Tronchet ici, c'est-à-dire que le grand, comme dira, est un grand con, et le petit est un petit grand con. Il y en a 20 pour rattraper l'autre. Quoi.
C'est l'égalité la plus complète, là. Il n'y a pas de différence.
C'est très beau.
Ils sont tous les deux aussi cons l'un que l'autre.
Ah, c'est magnifique.
C'est une BD écrite par Tronchet, comme je vous le disais, alias Didier Vasseur, né à Béthune en 1958, qui est un dessinateur et scénariste de BD française. Mais avant d'être dessinateur et scénariste de BD française, c'est un journaliste. Il a été diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille en 1980, et il est surtout connu pour son humour noir et son cynisme. Il va avoir plusieurs héros récurrents qui sont toujours... Alors ça c'est un phénomène récurrent chez lui, c'est que c'est toujours des mecs hyper décalés, hyper ringards, toujours des pauvres types qui vraiment sont moches, cons,
mais
qui arrivent à rien.
Ils sont attachants.
Mais ils sont extrêmement attachants.
Puisque je sens qu'on a pris chacun nos infos sur le même site...
Je vois pas ce que tu veux dire, Gaspard.
Si je te dis que ses registres favoris sont l'humour noir et le cynisme, ses héros récurrents, ouvrez la parenthèse, Raymond Calbut, Jean-Claude Terrier.
Oui, mais quand tu dis ça, est-ce que tu veux dire que toute la misère humaine passe avec dérision et nostalgie à travers ses albums?
Du regard, toujours en manque d'affection, au paysage désolé de son Nord-Pas-de-Calais natal. Mais attends, on y trouve aussi, sous forme de science.
Des mondes entiers reconstruits sur le thème
de l'absurde et du totalitarisme.
Les séries
Oupland, Raoul Fulgurex.
Ou Welcome Land.
Oui, pardon, je pensais que t'allais lire les petites parenthèses.
Pardon, non, pas fait les parenthèses.
Ce qui est très bon, mais... c'est qu'on s'est même pas concerté là-dessus.
Voilà, là, on a quand même trouvé nos infos sur le site, qui est un grand site d'information.
Et on dévoile pas nos sources.
Donc, des personnages qui sont toujours des gros paumés. Il est surtout connu, enfin moi, je l'ai surtout connu grâce à Jean-Claude Tergal. Une grande révélation. On va parler de Jean-Claude Tergal après. Mais c'est un de ses personnages les plus récurrents et les plus paumés dans ce genre-là. C'est un type, du coup, voilà, qui va un peu se balader, qui va faire des BD très drôles, mais qui va en même temps explorer un petit peu tout ce que la BD peut lui offrir comme sujet, en faisant des romans graphiques, autobiographiques. Donc une œuvre assez large, qui n'est pas forcément porté que sur la BD, mais aussi sur les reportages et sur son travail de journaliste. Donc on a vraiment un type qui est un peu touché à tout. À titre personnel, ça a été le prof de ma tata à l'école de journalisme de Lille.
Oh.
Elle l'a eu en professeur. Voilà.
C'est pour ça que ta tata nous a demandé de parler de lui ce soir.
Exactement. C'est un placement produit.
Pour ta tata.
Pour ma tata.
Donc, elle cherche un mec en ce moment. Donc, on s'intéresse à tous les fans de Tronchet qui aimeraient la...
Il a un... Ça, on va le voir, on va en parler, mais il est connu donc, pour un humour hyper jeu de mots. Et il aime beaucoup rire avec tout ce qui est nullité et bêtise, quoi.
Bah c'est... Oui, il y a un truc vraiment où il... Mais en même temps, je trouve qu'il rigole, il se moque aussi, clairement.
Ouais.
Mais il arrive à rendre attendrissant ce qu'il y a de plus nul et de plus désolant. Et
même de plus méchant, parfois. Parfois, ah oui, non, bah, c'est juste méchant. Méchant, quoi.
Mais en plus, moi, je trouve qu'il y a un truc... Alors, attention, je m'adresse au masque et la plume. Un truc un peu welbeckien, dans le sens où il s'adresse un peu... Enfin, il dresse un portrait de ce que serait l'homme contemporain un peu nulard, perdu au milieu de la ville.
Carrément.
Et je
carrément.
Trouve ça très, très drôle, parce qu'il y a toujours ce truc de savoir est-ce qu'il faut rire de ses personnages ou avec ses personnages. Non, là, on rit de ses personnages, voilà. Parce qu'ils sont quand même aussi... c'est le titre de l'album.
C'est deux cons, quoi.
C'est vraiment des sacrés cons.
C'est vraiment deux cons, donc si on rit pas d'eux, franchement, je sais pas ce qu'on peut en faire, quoi.
J'ai été journaliste pendant peut-être une dizaine d'années et je me suis affranchi du réel et je suis rentré dans la fiction grâce à la bande dessinée. Tout à coup, il y avait un espace ouvert devant moi où on pouvait raconter tout ce qu'on voulait, les personnages qu'on voulait, mais je me suis nourri de cette expérience de journaliste en racontant des histoires de personnages que j'ai rencontrés, puis il m'est arrivé à la suite de faire de la scène, j'ai fait un peu de scène avec mon personnage, puis j'ai eu la chance qu'on me propose de faire un film, donc j'ai fait aussi du cinéma avec ce même personnage de Jean-Claude Tergal. Tout ça m'a permis d'utiliser des différents langages et de voir qu'une même histoire pouvait prendre différents aspects à condition qu'on reste bien ancré dans toujours cette même sincérité de raconter quelque chose qu'on ressent profondément. Et s'il y avait un dénominateur commun à toutes ces expériences, c'est ça, c'est essayer d'utiliser la part la plus authentique de ce qui m'entoure pour en faire l'objet de récit.
Donc comme je vous disais, j'ai connu Monsieur Vasseur alias Tronchet avec plusieurs BD. Je l'ai d'abord connu, et ça c'est... Je remercie ma tante du coup qui l'avait comme prof, parce qu'en vrai c'est elle qui m'a carrément...
Je crois qu'elle a acheté toute la collection de BD pour faire la Fayotte, elle est arrivée en fac.
Il y a moyen. Bref, en tout cas, elle m'a offert vraiment, et je la remercie beaucoup parce qu'elle m'a invité dans un univers que j'aime beaucoup. Elle m'a offert Jean-Claude Tergal, elle m'a offert Deux Cons, un peu plus tard, parce que c'est sorti en 2004. Et après, tout seul, j'ai découvert deux autres titres assez formidables. Gaspard, je t'en ai fait lire un l'autre jour.
Bah j'en parler rapidement.
Parle-en.
Une BD assez rapide,
oui.
Assez minimaliste dans son dessin aussi, il faut le dire, qui repose. Donc tu me contredis si je dis n'importe quoi parce que c'est toi qui m'as raconté. Tronchet est un soir devant sa télévision et entend parler d'une dualité entre l'habitat urbain et l'habitat rural.
Oui.
Et donc on est Tronchet. Hein, oui. Comme aurait expliqué Raph, il a un humour basé sur des jeux de mots très bien sentis.
Très légèrement.
Et du coup, vous avez entendu l'habitat urbain et l'habitat rural, mais lui, il n'a pas entendu ça. Il a entendu l'habitat urbain.
Voilà.
Et donc, on suit le quotidien de Urbain et de son sexe proéminent.
Voilà. Et c'est les aventures. Et alors, je vais déformer un peu ce qu'est dit au quatrième de couverture, mais je crois qu'il dédicace cette BD à toutes les filles pour leur montrer que c'est très difficile d'être un mec parce que nous aussi, on vit des aventures un peu compliquées avec nos zigounettes. Voilà. Il y a des aventures.
C'est ça.
Il offre des fleurs à une fille, il lui offre un gâteau, il tombe sur la bite. Bon,
et c'est... donc, voilà, c'est souvent des aventures qui sont contrariées par le fait que son sexe l'empêche de faire pas mal de choses.
Eh bah oui, et qu'avoir un zizi, c'est pas facile.
Et surtout, il a un ennemi juré qui est rural.
Et qui lui a une bite éclatée. Parce que toute la blague vient du fait que l'habitat rural est éclaté, alors que l'habitat urbain est en expansion. Voilà. Alors, c'est comme ça que notre podcast est mort. Hein. C'est très clairement sur cette blague. Donc voilà, c'est avec ces BD que je l'ai connu, j'ai une énorme tendresse pour ce type et pour toute son œuvre. Plus précisément, avant d'attaquer un petit peu ce qui se passe dans Deux Cons, je vais vous parler de la BD en tant que telle. Donc c'est une BD en fait en planche avec un découpage qui n'est pas très classique. On va avoir des cases qui peuvent faire un récit en trois cases plutôt qu'une planche, ce qui est en général le format classique pour une BD
On a vraiment des nouveaux récits qui démarrent. sur la même page qu'un autre. Ça reste quand même assez lisible et assez fluide. Pourquoi ? Parce qu'il y a un fil conducteur.
Voilà.
Chaque sketch ne va pas être la suite du précédent. En revanche, va se développer, je pense que Raph en parlera peut-être un peu mieux que moi, une boucle et une succession d'éléments qui vont venir et revenir pour vraiment en fait, satisfaire la lecture du spectateur.
Voilà.
Où on n'est jamais perdu. En fait, on reprend des fils qui se sont arrêtés quelques cases avant et ça ne s'arrête jamais.
Voilà, donc on a vraiment une manière classique de faire pour une BD humoristique, c'est-à-dire par petite histoire dans la BD, mais ça fait avancer la grande histoire avec, comme le dit Gaspard, une série de boucles qui, à la fin, nous amène à vraiment trois pages où on suit en fait le dénouement des aventures des deux cons de Patacrêpe et Couille à l'air. Graphiquement aussi, moi, je trouve la BD hyper intéressante. Alors, il a un trait, pour moi, qui ressemble un peu à Tardi, dans les cheveux, dans les traits, tu vois, les traits extérieurs qui font,
ouais.
Qui font la peau des personnages, qui sont assez épais, comme Tardi le fait. Et en fait, c'est une ligne claire qu'a Tronchet. Donc ça, c'est un petit mot technique. Tu vois, la ligne claire, ça a été inventé par
Hergé. Mais pour moi, c'est Hergé, c'est Tintin, voilà.
Ça a été inventé par Hergé, entre guillemets, parce que il avait sa ligne claire à lui, mais en fait, après, on a appliqué ce mot à d'autres créateurs qui avaient aussi une ligne claire.
Et après, on dit très clair, moi il y a un truc vraiment qui me surprend dans ces albums, c'est qu'il y a une lumière très sombre. Et c'est-à-dire qu'il dessine, ça se passe souvent dans des appartements assez sombres, et on reconnaît, on sent voilà, que c'est un vieil appart un peu humide,
ouais, c'est vrai.
Un peu dégueulasse, qui est très mal éclairé.
Bah, c'est fait de manière assez simple, mais voilà, on a tout de suite une ambiance qui se crée, et ça c'est le deuxième point sur le trait, c'est les couleurs. Parce qu'à chaque... comment se fait également le petit découpage entre les cases, c'est qu'on a des aplats de couleurs et une gamme de couleurs qui va être utilisée pour une même petite histoire. Et on va pas changer du tout de gamme, par exemple. On va avoir toute une petite histoire qui se déroule entièrement avec des dégradés de rouge. Alors vraiment, on a une ambiance en fait, qui se crée à chaque fois et qui permet un vrai découpage des différentes cases. Et les seuls moments où on va avoir des couleurs changeantes au sein de la même histoire, c'est parfois quand ils sont en extérieur... Mais surtout, plus on avance dans la BD. Donc, on a vraiment, graphiquement aussi, une évolution de ce que vivent les personnages pour, à la fin, la dernière dont on vous parlera, qui est l'histoire de Ravioli. Beau Ravioli. Où on a vraiment des couleurs qui peuvent changer, alors que pendant toute la BD, c'était pas du tout le cas. Voilà, donc, très rapidement pour résumer, avant d'attaquer le récit, c'est une histoire avec des vraies conneries. C'est souvent stupide.
Oui.
Oh, très souvent stupide, parfois un peu méchant, mais bizarrement qui permet d'en savoir beaucoup sur les deux personnages, je trouve.
Moi, je les trouve merveilleux, ces deux cons, parce qu'ils résonnent avec une logique qui est assez imparable. C'est pour ça qu'ils ne sont pas non plus, c'est pas des idiots dingues. On ne se dit pas, voilà, le mec est incapable de vivre. Ces mecs vivent seuls, ils savent
oui, c'est des
prendre
adultes.
Soin d'eux. Ils ne sont pas complètement cons.
Mais
ils le sont
complètement
beaucoup.
Cons.
Mais en vrai, ils vont toujours avoir un élément qui dérive. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas le remarquer et ils vont continuer d'appliquer leur logique et leur raisonnement là-dessus. Et nous, en tant que lecteurs, on est en train de se dire « Merde, c'est horriblement logique ce qu'ils sont en train de dire, mais c'est en même temps horriblement con. »
Ah ouais, putain.
Et donc, on va parler des raviolis, on va parler des stratagèmes pour accéder aux douches des filles. En plus, il y a quelquefois, ça arrive dans la BD... Ils sont conscients de leur propre bêtise.
Ouais.
Il y a deux, trois fois, où, surtout vers la fin de l'album, où ils n'arrêtent pas de se dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on est con,
qu'est-ce qu'on
quoi.
Est bête de faire des trucs comme ça ?» Mais alors, justement, c'est très beau, parce que ce que tu dis, c'est vraiment... C'est-à-dire, ils font vraiment beaucoup de conneries, mais je trouve qu'avec ces conneries, de temps en temps, ils disent des trucs hyper intelligents. Ça fait vraiment connard, branleur philosophe, à dire « Ouais, ils disent des trucs hyper intelligents dans la bêtise, etc. » Mais c'est vraiment, de temps en temps, ils te font des réflexions, tu fais genre « Oh putain !» Donc, on attaque l'histoire de deux cons. Puisque bien que ce soit découpé en petites cases et en petites histoires rigolotes, il y a une histoire de fond qui se passe. Et on attaque avec... On va être introduit aux deux personnages de Couille à l'air et Pâte à crêpes, avec... avec déjà la couverture.
J'ai juste la phrase, c'est magnifique, quoi.
Couille à l'air et Pâte à crêpes.
Introduis-moi à Pâte à crêpes et Couille à l'air,
voilà.
S'il te plaît.
Avec déjà juste la couverture, hein, où il y a marqué deux cons, ils font quoi, coup,
où ça
qui
faut vite les avertir.
Voilà, il faut les avertir qu'il y a deux cons, parce que ça peut être dangereux pour eux. Ils commencent avec des charades. Et alors, on va vite comprendre qu'au niveau charade,
ils ont pas le même niveau.
Ils ont pas le même level, hein, très clairement. Donc, la première charade est hyper dure, puisque Couille à l'air monte tout de suite le niveau en disant... C'est quoi une syllabe inaugurale d'une substitution linguistique dont l'antonyme est syntagmatique? Bon, le deuxième, je sais plus ce que c'est, mais au final, ça fait...
Paris.
Voilà, Paris.
Non, surtout qu'après, non, tu le fais mal, c'est qu'il dit... Mon premier, c'est son truc
voilà.
Très compliqué.
Deuxième,
mon deuxième,
c'est un truc hyper compliqué.
Je sais plus quoi. Et mon tout est la capitale de la France. Et l'autre est là, Paris. Il fait, oh mon Dieu, mais comment tu fais?
T'es hyper fort.
Et ce qui est très très bon, c'est que l'autre lui répond dans la petite boucle suivante qui démarre. Moi aussi j'ai une charade, oui. Mon premier est en alcool et mon tout est la capitale de l'Italie.
Alors du coup,
et l'autre est là, il fait
c'est Barcelone.
Le premier il est là, il fait je sais plus, oh, ça serait du Rome. Ouais. Et oui, d'un coup, et puis là, mais le tout, j'en sais rien, donne-moi un indice. Je trouve dès le début, parce que c'est avec ce délire des charades qui nous présente les deux personnages, il a un truc assez drôle de nous dire bon voilà, c'est des types qui peuvent quand même avoir un raisonnement, c'est-à-dire juste. Savoir comment fonctionne une charade, être capable de répondre à des questions, mais en revanche, quand il s'agit d'appliquer un truc aussi con,
ils sont incapables de le faire.
C'est que ça, c'est pas qu'ils sont, pas un culte, ils sont pas totalement incapables, c'est juste, ils sont très cons, quoi.
Ils sont très cons.
Juste déjà, Tronchet, il va nous habituer à ce que va être toute la structure de l'album, c'est-à-dire qu'il va nous apprendre que ces mecs peuvent raisonner ainsi. Il joue avec le principe de répétition, et une fois que la boucle elle est bouclée, la vanne, elle existe, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que 10 pages plus loin, ils vont refaire des charades et on va comprendre comment ils fonctionnent.
Ça, c'est vrai, ça.
On se dit, putain, la vanne, en fait, voilà, il nous a placé le coup de la charade 10 pages avant pour pouvoir nous la ressortir 10 pages après. Et là, vraiment, d'un coup, la vanne, elle existe.
Ouais. Et pareil, le coup de la télépathie, c'est-à-dire qu'ils le ressortiront après.
Et en plus, il y a un truc hyper jouissif en tant que lecteur. C'est comme quand on regarde un film et qu'on comprend, ah putain, on m'a balancé tel élément avant pour la préparation de paiement, quoi. Mais genre, vraiment, le truc de, ah, d'accord, je comprends maintenant pourquoi on a fait ça avant. Sauf que là où il est très fort, c'est qu'il le repousse encore plus. Tu penses que la boucle, elle est bouclée, et il la redémarre. Et c'est là où, en fait, quand il redémarre la boucle, tu te dis, mais les mecs sont complètement idiots.
Ils sont complètement débiles.
Ils pourraient se dire, tiens, même eux, tu vois, ils pourraient avoir ce raisonnement de se dire,
putain, okay, mais il y a deux pages.
Oui, je comprends maintenant, en fait, pourquoi. Et ils tirent aucune leçon de ce qui leur arrive.
Donc, on va apprendre, voilà. Ils aiment bien rigoler entre eux, mais ce qu'ils aiment aussi beaucoup, et alors ça, ils l'aiment beaucoup, c'est les filles.
Ils ont en tout cas une fascination totale.
Ils sont hyper fascinés.
Pour le corps de la femme, quoi.
Un truc un peu malsain, un peu curieux, CM2. Mm. Tu vois, genre, mais pourquoi ils n'ont pas de zigounette?
Et là, c'est ça aussi, à nouveau, c'est des... Bah ouais, mais en même temps, il y a aussi un truc de... C'est ça qui les différencie du personnage de l'idiot, du bonnet. C'est-à-dire que c'est pas des... Non, le bonnet, c'est un mec qui est totalement asexué.
Ouais. Non, là, ils sont c'est des personnages
eux, asexués. Les hormones, le travail, quoi, pas mal.
Mais ils ont une curiosité de petit garçon, en fait. Bah, ils veulent savoir ce que c'est que les seins, etc. Enfin...
Et ils reprochent aux seins, quand même, d'être trop attirants.
Voilà.
Et ils ont un truc très bête de dire, mais en même temps, les seins sont trop attirants, mais si on les touche, on se prend une paire de claques.
C'est des faux culs, les seins.
C'est ça. Les seins sont des faux culs.
Donc voilà, on va continuer à suivre leurs aventures et leurs questions sur plein de choses. Ils ont des questions hyper pressantes. Ils vont notamment avoir des questions sur le nom de famille revient. Puisqu'un jour, t'as Couille à l'air qui va emprunter le stylo de pâte à crêpes. Ce dernier lui donne, il dit, bah ok, mais il s'appelle Revient, quoi.
Quoi Revient, mais c'est trop drôle, parce que regarde, mon taille crayon s'appelle aussi Revient. Le mec qui me l'a donné
m'a dit qu'il s'appelle Revient. Bah, ils doivent être de la même famille.
Et du coup, il faut pas les séparer. Bah, du coup, je les laisse tous les deux dans ma trousse.
Et voilà. Viens, on les garde dans ma trousse tous les deux. Hein. C'est plus safe comme ça.
Et du coup, ils ont un truc de... C'est tellement mignon ce qu'il dit en même temps. Et du coup, tu peux pas lui dire, genre, bah écoute, champion, non.
Tu me rends mon stylo.
Moi, ça, c'est un truc, c'est la page 2 ou 3, je crois. Ils continuent d'appliquer leur raisonnement, et pour un truc hyper attachant. C'est ce genre de petite case où on se dit, on peut pas leur en vouloir.
Oui, c'est pas des mecs méchants.
Hyper mignon.
Ouais, c'est ça, ils sont très mignons, très naïfs, en fait. Genre, oh, il s'appelle Revient. C'est peut-être des frères séparés à la naissance. Non, on va les remettre ensemble.
Ça, et on reparlera à nouveau des raviolis, décidément. Mais ça part toujours d'une idée de il faut les aider.
Oui, c'est vrai, ils veulent aider les gens dans certaines conditions. Il y a des fois où ils sont juste un peu pervers, mais ils veulent parfois aider. Et moi, le pinacle de ce truc sur les coïncidences qui est assez ouf, c'est quand ils vont à l'église. Patacrep a amené Couille à l'air à l'église en lui disant, écoute, j'ai trouvé un autre membre de la famille Revient, c'est Jésus. Parce que Jésus revient.
Ah, non, mais...
Et l'autre, il fait genre, quoi j'ai la même famille. Attends, il dit quoi? Il dit, oh putain, je suis hyper embarrassé parce que je me suis curé le nez avec le stylo,
oui.
C'est de la même famille que Jésus.
Tu peux te le garder, le stylo.
Tu peux te le garder, ton stylo, et que tu t'es curé le nez avec.
Mais et en même temps, voilà, cette blague sur Jésus, elle intervient 10 pages après la blague originelle sur le crayon. Quand débutent les cases sur Jésus, on se dit, pourquoi ils sont à l'église? Ils n'ont jamais parlé d'église. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Et au bout de deux trucs, on comprend qu'ils sont à nouveau bloqués sur le truc du revient qui était 10 pages plus tôt. Et il y a une putain de satisfaction en tant que lecteur de se dire, ah bah putain.
Voilà, pardon, pourquoi il a fait cette blague, quoi.
Ouais, une vraie satisfaction en tant que lecteur de se dire, Ah, mais je comprends pourquoi 15 pages plus tôt, il m'a fait chier avec la blague qui n'était pas si drôle non plus. Okay, bah, si c'est drôle, mais on se dit pas, c'est pas du niveau de Tronchet pour se dire, en fait, voilà, 15 pages plus tard, il revient pour me faire la blague sur Jésus qui est de la même famille qu'un crayon et un stylo.
voilà, ils ont plein de. Voilà, on m'a su leurs petites aventures sur plein de questions et encore une fois sur leur obsession des filles qui revient assez souvent, notamment avec l'épisode de la piscine.
Oui.
Alors, ils ont vraiment très très envie d'aller voir des filles dans les vestiaires. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme idée, Gaspard ?
Voilà, pour accéder aux vestiaires des filles, un raisonnement très très simple et à nouveau très cartésien. Pour accéder aux vestiaires des filles, il faut qu'il y ait le logo filles sur la porte.
Ben oui.
Et du coup, ils se disent, on va intervertir les sigles. Donc, le vestiaire des filles va devenir celui des hommes et celui des hommes, celui des filles. Comme ça, on pourra rentrer dans le vestiaire des hommes.
En ayant remis avant l'autocollant voilà, homme, et pour dire on n'a rien fait de mal. Quoi.
Arriver dans le vestiaire des filles.
On a le droit.
Découvrir un nombre incalculable de femmes nues.
Oui, parce que c'est limite mystique. Quoi. Ils se disent, putain, le vestiaire des filles, ça va être ouf, il y a plein de filles. Quoi.
Et c'est là qu'intervient mais le génie comique, je trouve, de Tronchet. C'est-à-dire qu'ils ont ce raisonnement où on se dit, à la base, bon, ok, ça se tient, voilà, ils sont un peu malins, ils ont compris comment voir les filles toutes nues. Ils le font, ils attendent, il se passe rien. Puis en fait, ils regardent dans le vestiaire, ils voient qu'il n'y a personne.
Et à ce moment-là, il y a une meuf qui arrive.
Non, attends, du coup, ils rentrent dedans. Une femme arrive en pensant que c'est le vestiaire des femmes, les voit dedans, dit « Excusez-moi, je pensais que c'était,
Le vestiaire des filles ». Il fait « Ah mais si, c'est ça !» Entrez, c'est là, il dit « C'est ici les filles à poil ».
C'est une situation, oui, c'est ça, c'est ici les filles à poil, venez ici.
Et du coup, la meuf, elle stop, elle fait « Du coup, c'est vous qui vous êtes trompé ?»
Oui.
Et ils sortent, et ils font « Mais où est-ce qu'on a raté ? Où est-ce qu'on s'est gouré, putain ?»
Et à nouveau, c'est ça, ils interrogent même leur propre logique de se dire « Mais c'était parfaitement logique, il n'y avait aucun moyen que ça foire. » Et en effet, sur le papier, l'idée de changer les trucs, hyper on serait dans un Looney Tunes, ça marcherait. Et comme il y a toujours un moment où ça foire, c'est là où je trouve ça génial, c'est que c'est la première fois dans la BD où, une fois qu'ils font le truc, on ne sait pas avant eux où ils ont merdé.
Oui, oui, c'est ça.
Où on se dit, en fait, d'accord, le gag va arriver. Là où avant, depuis le début, ils démarrent un truc.
Et ils sont cons depuis le début.
Et nous,
on
sait où ça a merdé avant. Donc, en fait, on attend la chute. Là, ils le font. Ils le font plusieurs fois. Hein, c'est sur 5-6 pages.
Oui, voilà.
On se dit à chaque fois, OK, il va y avoir un nouveau gag pour nous montrer qu'ils n'y arrivent pas.
Oui, c'est-à-dire qu'ils le réessayent après en disant, bon, alors cette fois-ci, on va améliorer le truc. On est un peu bête. Il faut attendre que la fille soit dedans.
Et du coup, ils attendent très très longtemps.
Ouais. Donc, il y a une moche qui arrive.
Et
non,
il y a une moche, une très très vieille.
Bah, oui, alors, toi, tu vois que c'est une vieille. Moi, alors, petite anecdote, moi, j'ai toujours cru que c'était une vieille, mais il dit juste moche. Mais dans ma tête, moi, c'était une vieille.
Écoutez, il y a des vieilles femmes qui sont très très belles. Hein.
Exactement. Big up à toutes les granises
qui sont belles.
Catégories sur certains sites d'information.
Et donc, la granny arrive, rentre dans les vestiaires. Et du coup, c'est couille à l'air qui est là en mode.
Oh bah non,
ah merde,
on va pas y aller.
Qu'est-ce qu'on a fait ? On m'en fout, ça fait trop longtemps que j'attends. Je rentre.
J'y vais. Alors.
Et donc, il y va.
Et au moment où il y va, t'as une fille hyper mignonne qui arrive. Il va mettre son autocollant. T'as une fille hyper mignonne qui arrive. Et elle fait ah, c'est plus le vestiaire des filles. Elle fait si, c'est nous. on mettait juste un autocollant pour les vestiaires des garçons. Et la fille fait ok, bah merci, au revoir, tu vois. Et ils sont hyper contents en disant yes, une fille hyper bonne, mais.
Donc elle n'est pas rentrée.
Bah voilà, ça, on peut plus rentrer, quoi.
Et du coup, ensuite, ils vont appliquer ce même système de blague. Je veux dire, Tronchet va l'appliquer pour pâte à crêpes et couille à l'air. Ils vont avoir tout un délire sur les culottes des filles qui les font fantasmer. Et ils se disent forcément, une culotte a un destin, c'est-à-dire celui d'être portée par une femme.
Bah oui, et ça, c'est hyper excitant.
Et donc, une femme nue. Et donc,
ah oui, c'est encore plus excitant.
Et donc, ils se disent, ils vont dans les boutiques, ils voient une culotte et ils se disent... Ah, ça me fait fantasmer l'idée de me dire qu'il y aura une femme nue dedans. Et comment ils se disent ?
Bah viens, on l'amène à la maison pour mieux fantasmer.
C'est ça, pour mieux fantasmer dessus. Il suffit qu'on achète la culotte pour qu'une femme apparaisse dedans. Et puis ensuite, ils se disent, bah non, maintenant qu'on a acheté la culotte, bah, personne va l'acheter, donc il n'y aura jamais de femme.
Oh les cons !
À chaque fois, voilà, il va y avoir ce même principe de blague comme à la piscine de comment on fait pour y arriver.
C'est ça.
Mais en appliquant un truc assez logique. Et puis, eux-mêmes vont raisonner sur leur propre échec.
Oui,
de se dire, merde, ça a pas marché à cause de ça.
Et alors, à chaque fois, ils arrivent du coup en disant, bon, ça a pas marché. Du coup, on va essayer comme ça. Il y a un côté hyper, tu le disais, Looney Tunes. C'est vraiment le plan qui marche pas. Du coup, on a un deuxième plan de secours. Et c'est...
Qui fonctionne toujours pas.
Et qui fonctionne jamais. Et donc là, leur deuxième plan, c'est de dire, bon, ok, écoute, on a fait une connerie. Mais là, on va y arriver. C'est-à-dire qu'on va retourner au magasin. On va attendre qu'une fille achète une culotte. et on va lui demander quand est-ce que c'est le moment du spectacle. Il va au magasin, il dit « Prévenez-nous, hein, 2 euros moins avant qu'on ait le temps de venir hein, pour le spectacle de quand vous mettez vos jambes dans la culotte. »
Ils le disent de manière tellement gentille. En même temps, genre, il y a un truc, ça paraît pas comme du harcèlement horrible pour les personnages féminins.
En fait, c'est ça,
féminins,
c'est que les personnages extérieurs à leur couple de comiques, leur couple de personnages, interviennent toujours, ils leur disent toujours que des phrases hyper hors du contexte. C'est-à-dire qu'ils disent pas à la fille « Dites-nous quand est-ce que vous allez enfiler la culotte ?» Ils disent juste « Prévenez-nous pour le début du spectacle.
Oui. »
Du coup, la personne regarde en mode « Ouais, ok, au revoir, messieurs, merci. » Et ils sont hyper contents, en mode « Yes, on va avoir une fille avec une culotte et tout !» Alors que bah non, la meuf, elle s'est barrée, quoi. Donc voilà, ils ont vraiment des gros délires sur tout ce qui tourne autour des filles, de la sexualité et tout ça, à tel point qu'il y a un moment où... Alors, petite anecdote, ils sont ensemble dans leur lit parce que oui, ils dorment ensemble. Alors ça, c'est...
Mais en même temps, à aucun moment de la BD, il y a une remarque qui est faite dessus ou...
Non, c'est juste, voilà, c'est... Bah, il faut une scène où ils n'arrivent pas à dormir... Parce que c'est l'idée de la scène, ils n'arrivent pas à dormir. Et bah, pour que ce soit plus simple, on les met dans un lit ensemble. Et il n'y a pas de question là-dessus, on s'en fout, quoi.
Et ils dorment chacun dans leur... Ils ont le même pyjama. En même temps, faut
ils sont très mignons. Hein.
Ils ont exactement la même tête, ils sont habillés exactement pareil, ils dorment dans le même pyjama.
Ils vivent dans le même appart.
Enfin, dans le même pyjama, ils ont chacun leur propre pyjama. Hein, mais
ça, on arrive pour moi à quand même une question de d'où ils viennent, qui ils sont, what the fuck.
Qui n'est jamais expliqué,
quoi.
Ouais.
Et alors, ça, c'est formidable parce que c'est juste l'idée. Et c'est d'ailleurs le titre que je trouve assez extraordinaire, parce que le titre aurait pu être un peu plus
c'est alambiqué. Totalement indéfini, quoi.
Non, c'est deux cons. Et ça que j'aime bien, c'est juste, je te raconte l'histoire de deux cons. Voilà, j'ai pas d'autres prétentions, je vais pas aller plus loin, c'est deux cons. J'ai envie de raconter les blagues sur deux gros cons, c'est deux cons. Et du coup, on s'en fout d'où ils viennent, on s'en fout comment ils se retrouvent ensemble dans la porte, ils vivent ensemble,
ils sont copains. Il n'y a jamais de contexte, on ne sait pas où ils vivent, on ne sait pas où ça se passe. Même moi, je trouve que le fait qu'ils leur aient donné des noms, alors on sait que c'est pas des noms qui existent, on sait que c'est deux personnages qui n'existent pas. Pâte à crêpes et couilles à l'air, ça n'existe pas.
Mais... Moi j'en avais un en sixième. J'avais un petit couille à l'air.
Pâte à crêpes, il est pas là aujourd'hui.
Bah, il s'est suicidé, couilles à l'air.
Mais du coup, tout le monde a eu son année, non? Il n'y a pas un délire comme ça.
Yes!
C'est ce que je veux dire. Non, mais ne vous suicidez pas, les jeunes, hein, s'il vous plaît.
C'est pas bien. Donc,
ouais, il leur donne des noms, pâte à crêpes et couilles à l'air, deux types qui n'existent pas et qui n'existeront jamais. Et c'est parce que ça revient à ce que je disais au début, ce qu'on disait, pardon, au début. On rigole des personnages, mais on rigole de deux personnages, on rigole pas avec eux, on rigole d'eux, parce que c'est deux personnages qui n'existent pas.
Ouais. On a quand même un cran, et ça on va y venir quand on parlera des raviolis, parce que c'est vraiment le pinacle de cette histoire. Ça fait deux fois que je dis pinacle ce soir, c'est cadeau, c'est pour vous. Quand on atteindra vraiment ce...
Très joli t-shirt avec marqué pinacle.
Hein, oui, voilà. D'ailleurs, tu veux voir mon tatouage sur la fesse avec pinacle?
Oh non, ça ira.
Donc en fait, si ils avancent, puisqu'on aura ce petit moment quand on parlera des raviolis...
C'est-à-dire qu'en fait, on s'est mal compris, c'est-à-dire que...
Non, je pense pas qu'on soit mal compris, je résume.
Excuse-moi, si, on s'est mal compris. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas des personnages qui vont évoluer, ils vont pas tirer de leçons de ce qu'il arrive. En revanche, et c'est un peu la puissance de l'album, c'est-à-dire que dans les dernières pages, et on y vient, il va y avoir une puissance, un truc totalement vertigineux qui va se produire, où on va se dire, merde, en fait, ça se trouve, depuis le début, ils ont raison.
Ouais, c'est hyper fou comme truc.
Si ça se trouve, oh putain, merde, je commence à spoiler, hein, mais c'est pas... Et qui va en fait donner une ampleur à tout le truc, où on se dit, c'était pas juste de vannes pour de vannes, mais il va quand même semer le doute, un doute qui est là juste pour rire aussi, et de dire, voilà, même eux prennent conscience d'un truc chez eux et peut-être tirent une leçon. Je sais pas quelle leçon ils tirent de ça, mais il va se passer quelque chose, quoi.
En effet. Donc voilà, ils n'arrivent pas à dormir parce qu'ils se disent, en fait, mes cellules, elles baisent à l'intérieur de moi parce qu'elles se reproduisent tout le temps.
Et ils ont appris que les cellules se reproduisent.
Voilà. Et ils se disent, au moins mes cellules, elles se reproduisent. Alors ça, note d'espoir, c'est qu'ils se disent, nous, on nique pas, mais au moins nos cellules, elles font une énorme tousse dans mon corps.
Et qu'est-ce qui se passe si les cellules ne se reproduisent pas?
Elles meurent.
Du coup, ils appliquent un raisonnement tout à fait logique. Si je ne baise pas,
je meurs. Donc ils disent, demain, je baise.
Ou je meurs.
Voilà. Donc ils vont dans la rue.
Ils
courent après une meuf. Ils disent, c'est une question de vie ou de mort.
Est-ce que vous voulez baiser avec moi ou je meurs? Et la meuf lui répond, je préfère que vous mouriez.
Voilà, crève.
Et l'autre est là en mode, t'as vu comment elle t'a condamné.
mais là, moi, j'ai complètement perdu le truc, là, au moment où ils disent. Mais du coup, la solution... C'est que il va falloir la forcer. Ouais, mais si on la force, on va être arrêté. Et si on est arrêté, on est mis en cellule. Et en cellule, oui. Grosse partouze.
Surtout ce truc de où il commence à se dire merde, on peut être arrêté. C'est un autre truc qu'on va retrouver dans un autre cercle de vannes dans toute la BD, qui est un délire autour des sosies.
Ouais.
Et là, Raph, je te laisse expliquer ce qui se passe autour des sosies.
Tout à fait. Bah alors, en fait, ils ont l'idée de se dire, il y a un moment, et c'est une des rares fois, justement, on en parlait justement de d'où ils viennent, comment ils vivent, comment ça se fait qu'ils soient dans le même appart, etc. Bah en fait, tout simplement, il y a une question hyper pragmatique qui va se poser à un moment. C'est que t'en as un qui dit, bah, on n'a plus l'argent.
Oui,
donc c'est la seule fois aura un rapprochement avec la vie réelle de, bah, ouais, bah, il faut de l'argent pour vivre. Un truc vrai concret, c'est que là, on n'a plus d'argent. Du coup, ils disent, bah, qu'est-ce qu'on va faire quand on n'a plus d'argent? On va faire
un braquage.
Et pour qu'on ne soit pas reconnu, on va mettre des masques de Mickey.
Oui, sauf que si on met des masques de Mickey, c'est Mickey qui va être accusé.
Et
bah, oui. Et Mickey va se faire arrêter. Et en plus, du coup, on va accuser Dingo, plutôt toute la bande, et Mickey qui était l'ami de notre enfance.
Mais oui, comment tu peux lui faire ça? Et puis là, t'as Riri, Fifi, Loulou qui ont fini derrière la DAS, toute la clique, ils vont tous partir.
À se dire que c'est horrible, ils peuvent pas faire ça à Mickey, l'ami de leur enfance. Du coup, quel autre héros de Disney est connu pour être un gros voleur?
Les Raptous.
Mais il se dit...
Mais les Raptous, mais tu peux y aller. Les Raptous, c'est des bandits, de toute façon.
Sauf que rentre dans une banque avec un masque de Raptous, tu vas te faire rigoler direct, mon gars. Clairement, ils commencent à avoir très, très peur. Ils se disent...
Mais la meilleure idée pour pas se faire choper, pour pas faire accuser des personnes
qu'on ne connaît
tort.
Pas. Oui, c'est
parce
ça.
Parce qu'ils sont gentils. Tu vois, c'est là encore, ils sont gentils. Ils ont pas envie de faire accuser à tort. Ils ont pas envie de faire accuser à tort d'autres personnes. Du coup, ils se disent, on va mettre des masques.
De nous-mêmes.
Voilà. Imparable logique.
Sauf que, et c'est là où à nouveau on retrouve la boucle de Tronchet, c'est-à-dire que quelques pages plus tôt, il parlait d'un délire autour des sosies. Il disait, tu sais, dans le monde, on a tous des sosies. Et d'un coup, ils se disent, mais merde, si nous, on fait un braquage de banque avec un masque de nous-mêmes, c'est nos sosies qui peuvent être accusées.
Ben oui.
Sauf que, et là, ils devancent le truc en se disant, si ça se trouve, nos sosies sont en train de faire un braquage avec nos masques, avec leurs masques, mais du coup, de nous. Et du coup, c'est nous qui allons être accusés de braquage.
Ah, les putains de sosies. Mais là, ils pètent un câble, genre, putain.
C'est bien.
Comment ils peuvent nous faire ça,
avoir,
à nous?
Avoir des sosies aussi lâches, c'est minable.
Et c'est là, moi, quand je parlais tout à l'heure du fait qu'il y avait parfois, ils abordent des trucs un peu philosophiques, c'est que là, sur les sosies, ils vont partir hyper loin avec, en finissant par se poser la question de « Mais attends, mais qu'est-ce qui me prouve que t'es bien couille à l'air et que
ah oui.
t'es bien pâte à crêpe ?» Parce que depuis le début, t'as peut-être été échangé à la naissance avec ton sosie. Donc voilà, on a, avant de passer au ravioli, une dernière petite réflexion que moi je trouve assez, assez mignonne aussi, sur l'extinction. Donc ça part un peu des dinosaures, où ils philosophent un peu sur la disparition des dinosaures en se disant, bon d'abord, c'est parce qu'ils étaient trop moches qu'ils arrêtaient de niquer, du coup la race a pas survécu. Bah, les dinosaures, ils servaient plus à rien, et bah du coup, qu'est-ce qui sert plus à rien non plus? Parce qu'ils sont un petit musée, ils se disent, bah les couilles, mais à quoi ça sert?
Nos couilles à nous ne servent à rien, puisque malheureusement ils n'arrivent jamais
à avoir
pas à
tirer notre coup, du coup elles ont aucune utilité, du coup elles vont disparaître, et là c'est l'énorme panique, elles sont comme les dinosaures quoi. Mais, et c'est là qui est assez fort, c'est que ils ont la réflexion qu'en fait, bah si, ça a quand même une utilité, c'est-à-dire que c'est un petit rideau de dignité entre l'anus et la bite que Dieu n'a pas mis pour les femmes, et alors c'est que c'est assez dégueulasse, mais nous heureusement on en a un.
Donc c'est une séquence au moment où ils sont vraiment en train de marcher le long d'un petit chemin à la campagne.
Très bucolique.
Ils ont jamais été à la campagne de tout l'album. D'un coup le mec les fout en mode pleine petite réflexion poétique. J'aime beaucoup ce décalage. Ce truc d'un coup ils ont une réflexion où en plus tu vois, c'est, à un moment il n'y a pas vraiment de vanne quoi. C'est juste ils sont en train de se dire ok. Nos couilles servent à ça, sauf que la vanne elle est dans le fait que les mecs ont rien à foutre à la campagne, ils ont aucune raison d'être là.
Et ben tu ne crois pas si bien dire, parce que moment émotion, on va y venir en parlant des raviolis, et c'est un moment fort en émotion.
Nous y voilà
aux raviolis. Qu'est-ce qui se passe?
Ils ont débuté quelques pages plus tôt, comment vous expliquer, une vraie phobie, une vraie peur, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur cuisine et ils découvrent que leur boîte de ravioli est périmée. Presque périmée. Et ils se disent, merde, dans deux jours, ou je sais plus dans combien de temps, notre boîte de ravioli est foutue.
Mais ils sont tous morts, surtout.
Et donc, c'est-à-dire les raviolis seront tous foutus.
Et ils sont tous morts, et ce sera un vrai génocide.
C'est ça.
Et le mec est hyper traumatisé en se disant, il y a un génocide, parce que dans cinq jours, ils vont mourir, quoi.
Il va être totalement fasciné, horrifié et angoissé à l'idée du sort des raviolis.
Ben oui. Et du coup, il a super peur, surtout qu'en plus ils sont maltraités parce que tu les mets dans une sépulture, la boîte de ravioli Panzani, c'est pas hyper classe quoi.
T'as pas envie de finir dans une boîte de ravioli.
Enfin, mon cercueil que j'ai déjà acheté, il n'y a pas marqué Panzani dessus.
Non, c'est vrai, il n'y a pas de bon de réduction sur le côté comme ils disent.
Ouais, je marquais du Rex.
Oh. Bouh.
Allez. Et du coup, il va trouver une boîte de ravioli qui, pour le coup, n'est pas encore expirée. Donc, on peut encore les sauver. Il ouvre la boîte de ravioli. Il s'apprête à aller en chercher d'autres pour les sauver.
Pour voir. Et pâte à crêpes.
Je vais me les faire, je vais les manger, quoi.
Non, il se dit, du coup, ils sont pas foutus encore.
Oui, on va.
Selon lui, on peut encore les bouffer.
On peut encore les bouffer.
Couillalère revient, découvre que pâte à crêpes est en train de préparer les raviolis. Qu'est-ce que tu fais? Et pâte à crêpes de lui répondre. J'essaie de rentrer en communication avec le chef des raviolis.
Et là, c'est le génie pur, là.
Et là, la blague énorme. Le génie pur, comme dit Raph, Couillalère éclate de rire en lui disant « Mais t'es complètement con, tu penses quand même pas que les raviolis ont un chef. »
Ils sont tous égaux.
C'est ça qui fait leur beauté.
C'est-à-dire qu'ils se montent tous les deux sur des conneries et à un moment, t'as un éclair de lucidité chez eux. « Ben non, les raviolis, ils ont pas de chef. » Mais alors, du coup...
Il y avait un rapport d'inégalité, comme on disait. Puisqu'à un moment, pâte à crêpes
va faire croire à Couillalère que...
La boîte de raviolis parle.
Et dans la boîte de ravioli,
il y aurait
la réincarnation de Genghis Khan
et de toute l'armée mongole. C'est-à-dire qu'en gros, Couillalère débarque dans la cuisine et entend, nous en tant que lecteurs, on voit que c'est pâte à crêpes caché au fond de la cuisine avec un haut-parleur, en train d'imiter la voix de ce que serait la boîte de ravioli, en train de dire oh là là.
Non, mais la voix de Genghis Khan en ravioli.
Oui, en plus, c'est ça.
Alors, ça ressemble à quoi la voix de Genghis Khan en ravioli? Oh, je sais pas, un truc.
C'est là où Tronchet, il est content de faire des BD et oui, des disques audio.
Tellement.
Et il se dit, bon, je vais faire croire que cette boîte de ravioli, la réincarnation de Genghis Khan et de toute l'armée mongole, et qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de...
Déverser leur haine sur le monde.
Exactement.
Parce que c'est dans leur gène d'envahir le monde et qu'ils veulent continuer, même en étant réincarnés en ravioli.
Couillalère, terrifié, se défend en expliquant qu'il a toujours défendu la cause des raviolis.
C'est vrai que depuis le début de la BD, il est hyper ravioli-friendly, quoi.
Mais c'est ça, nous.
Ravioli
c'est
Lives
un
Matter.
Truc de ça... Ça, c'est un truc, tu vois, qui est génial. C'est qu'à chaque fois qu'il va se revendiquer de quelque chose, bah, nous, on a le passé pour se dire, bah oui, c'est vrai. Sur une débilité pareille.
Ouais.
C'est-à-dire de j'ai toujours été un fervent défenseur des raviolis. Bah, nous, en tant que lecteurs, on peut témoigner de
oui,
il a vraiment toujours été un fervent défenseur des raviolis, on le sait depuis 30 pages maintenant.
Et il a même dénoncé le génocide des raviolis qui était fait par Lustucru ou Panzani.
C'est ça. Et du coup, il répond à Genghis Khan qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Ce n'est pas Genghis Khan. Nous, on sait que c'est
pâte à crêpes.
Pâte à crêpes. Il dit j'ai toujours voulu voir la mer.
Mais alors, là, c'est le moment genre feels, quoi. C'est le seul moment où t'as vraiment un tout petit peu des personnages qui est dévoilé en mode, bah, pâte à crêpes, tout ce qu'il veut, bah,
et
c'est
moi,
voir la mer.
En plus, il y a un truc qui est quand même très très fort, c'est-à-dire que là, on est page 47. Et on sait qu'une BD, c'est 48 pages. Et on se dit, bon, alors, en gros, ça va être le dernier gag un peu lourdeau de la BD.
Bah, où est-ce qu'ils vont, justement?
Il est un peu ému à l'idée que Genghis Khan et toute l'armée mongole veuillent aller voir la mer. Il les emmène voir la mer.
Voilà.
Il dit à pâte à crêpes, viens, je t'emmène voir la mer.
Attends,
t'expliquer, mais Genghis Khan était dans une boîte de ravioli, il veut voir la mer.
C'est-à-dire qu'ils y vont tous les deux en bus, avec une boîte de ravioli sur le siège à côté.
Ils arrivent à la mer, ils ont enfilé leur joli petit maillot, à nouveau ils sont habillés exactement pareil.
Ils sont
sortis. Même bonnet de bain et tout. Couillalère prend la boîte de ravioli, la pose dans l'eau, et dit à Genghis Khan et l'armée...
Va en paix.
J'espère que, voilà, maintenant que vous avez vu la mer, vous serez calme et vous reposez...
Vous n'attaquerez pas le monde.
Exactement. On voit la boîte de ravioli s'en aller, et là, génie de la BD,
incroyable,
s'attarde sur la boîte de ravioli. Nous, on a un close-up, et seul nous le voyons. Qu'est-ce que dit la boîte de ravioli, finalement?
Ah, mes frères, nous allons enfin pouvoir déverser notre haine sur le monde. On les a bien eus, les deux cons.
Et du coup, Couillalère et pâte à crêpes sont terrifiés parce que...
Ils ont littéralement déversé la fureur de Genghis Khan sur le monde dans la forme de raviolis périmés qui ont filé la chiasse à la planète entière.
Ça. Et là, il y a un jeu sur plusieurs cases au point où on voit
la planète,
puis la France, puis l'Europe, puis la planète Terre, et puis enfin tout l'univers. Juste de petites bulles de... Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? On est vraiment deux gros cons. C'est peut-être
c'est
nous.
Nous.
C'est ça. Et ça se finit là-dessus. Et c'est là où d'un coup il y a un truc vertigineux avec ce dézoom.
Mais hyper
incroyable.
Mais c'est d'où ça vient, quoi?
En fait, si ça se trouve, depuis le début, nous on se fout de leur gueule parce qu'ils parlent à une boîte de ravioli. Mais en fait, ils avaient raison. Il y a vraiment Genghis Khan.
Voilà.
Merveilleux. Est-ce que Raph, t'as un conseil, un truc un peu similaire ou complètement différent à nous conseiller suite à cette belle lecture?
Bah alors déjà, je vous conseille très honnêtement d'aller lire tout ce qu'a fait, c'est vraiment très bien.
Et moi, je vous conseille la merveilleuse émission de Rafik Djoumi sur Arte qui s'appelle Beats, et un épisode en particulier qui remonte maintenant, je pense qu'à 2-3 ans, qui s'appelle Be Stupid, qui est un épisode absolument dingue sur justement le rôle du crétin, du stupide, du con dans la culture populaire. Vraiment là, dans l'épisode, c'est vraiment consacré à son rôle dans le cinéma, mais vraiment, quelle est la satisfaction pour un spectateur? Qu'est-ce qu'il apporte à un spectateur de voir un personnage stupide? Et du coup, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour parler littérature avec un livre qui est très très proche, qui s'appelle L'étranger d'Albert Camus. Et le prochain album de BD, c'est dans un mois, et c'est Pascal Brutal de Riyad Satouf. Un putain de chef-d'œuvre. C'était L'heure est grave. Merci de nous avoir écoutés.
Merci à tous, et on vous dit à la semaine prochaine.
Ciao.
Les fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses. Qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Vous les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons qui confessaient le prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.